France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'historien Denis Péchanski. Avec lui, nous évoquerons la mémoire des attentats. Il faut dire qu'avant-hier, s'est donc ouvert devant la Cour d'assises spéciale de Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015 et que demain, vous l'avez entendu également, ce sera le 20e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Alors ce soir, avec notre invité, nous allons nous arrêter non pas sur ces événements eux-mêmes qui ont marqué la France et le monde, mais sur la mémoire de ces événements, la mémoire individuelle et la mémoire collective. Denis Péchanski travaille depuis des années. Il co-dirige le programme de recherche du CNRS, 13 novembre, qui concerne les sciences sociales, mais pas seulement. Les neurosciences aussi sont mises à contribution pour tenter de comprendre ce que retient notre cerveau, ce que le facteur temps produit également. Est-ce que l'histoire en retient finalement à long terme? Pourquoi certains événements s'effacent petit à petit et d'autres pas? D'où l'importance en tout cas de consigner les témoignages, tous les témoignages, comme ce document exceptionnel recueilli par Gaëlle Joly, un enregistrement du standard du SAMU de Paris le 13 novembre 2015.
Oui, bonjour, docteur Poirot, régulation de SAMU de Paris. Je vous indique qu'il y a plusieurs tireurs dans Paris. Il faut absolument ouvrir la cellule de crise Victoria.
Nom de Dieu.
On va avoir besoin de votre support très rapidement.
Un document donc de Gaëlle Joly à suivre. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, présidentielle, Covid, Belmondo. Là aussi, le regard de l'historien Denis Péchanski nous sera utile. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, quel accompagnement scolaire pour les enfants en situation de handicap? On fait le point un petit peu plus d'une semaine après la rentrée. Le standard attend vos appels au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Denis Péchanski.
Bonsoir Claire Servageant.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez depuis longtemps sur l'interaction entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Vous êtes co-directeur scientifique, je le disais, du programme 13 novembre. Vous avez fait ça avec Francis Eustache, qui est neuropsychologue. Ce programme, dont on va parler, associe le CNRS, l'INSERM, le CREDOC. On va détailler tout ça, Denis Péchanski. Mais d'abord, dites-nous, pourquoi ce programme de recherche a été mis en place?
Bien d'abord parce que ça faisait des années que j'avais engagé une réflexion sur la question de la mémoire. C'était à la fin des années 2000, je suis arrivé à New York en lien avec un laboratoire mixte franco-américain, CNRS et New York University. Et là, initié aussi par des contacts que Stéphane Grimaldi avait pris, le directeur général du mémorial de Caen avec le mémorial 9-11, le futur mémorial musée 9-11. Une réflexion sur la mémoire donc était indispensable pour lui et pour nos amis de 9-11. Et moi j'arrivais avec une interrogation, hein, une sorte de... qui est devenue un postulat. Je me suis dit, si vraiment on veut comprendre pleinement la mémoire sociale, la mémoire collective... faut prendre en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Ici, et là l'imagerie cérébrale, la grande révolution de l'imagerie cérébrale le prouvait, si on voulait comprendre pleinement ce qui se passe dans le cerveau, fallait prendre en compte l'impact du social. Vous démarrez avec un postulat comme ça, évidemment ça implique de travailler avec des neuroscientifiques. Et là vous avez les neuroscientifiques, les cognitivistes, les neuropsychologues, les psychologues, et puis nous, historiens, sociologues, anthropologues, etc.
Alors,
et
philosophes. On va revenir sur tout ça, Denis Péchanski, mais dites-nous pourquoi sur précisément les attentats du 13 novembre 2015?
Alors on avait commencé à travailler et sur les attentats du 11 septembre et sur la Deuxième Guerre mondiale, qui était ma spécialité, et puis est arrivé le 13 novembre. Et là... Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. On avait bien sûr plein de projets. Et on était déjà bien occupés, mais on pouvait pas laisser passer. Donc, le souvenir, j'étais dans ma cuisine avec ma femme, Karine, qui en même temps va devenir secrétaire générale du programme. Et je lui ai dit, j'ai trouvé. On va faire 1000 entretiens en 10 ans. 4 fois 1000 entretiens, en fait. Retrouver les mêmes personnes en 2016, et puis 2 ans plus tard, et puis 5 ans plus tard, et puis 10 ans plus tard, pour voir comment un événement traumatique est mémorisé, et pour voir comment ça évolue dans le temps. Donc c'était le point de départ. J'ai téléphoné à mon copain Francis Eustache qui se posait la même question. Neuropsychologue avec qui je travaillais déjà dans un équipement d'excellence, Matrice. On avait développé des outils pour justement comprendre comment interagissait mémoire individuelle et mémoire collective, et qui me dit, bah écoute, justement, moi je pensais qu'il fallait qu'on travaille sur le trouble de stress post-traumatique, qui est la pathologie centrale, vraiment cruciale de la mémoire et de la mémoire d'un événement traumatique. Donc on est en train de monter un protocole, allez, on fonce. Donc on fonce, c'est tout.
Et cet événement vous paraît évident ?
Oui, on n'a pas le choix. Enfin, comment vous dire ? Il y a une dimension citoyenne dans l'affaire. C'est-à-dire que face à cette situation, on réagit avec nos armes. Bon, nos armes, c'est les armes de la connaissance, c'est les armes de la recherche. Point.
D'ailleurs, bon. Le président du CNRS avait lancé un appel.
Exactement,
juste après,
au même moment. Hein. Et pour l'anecdote, je connaissais un petit peu, parce que ça fait quelques années quand même que je suis de la maison, là. Et donc, je lui envoie un petit mot au bout de quelques... Quand on a commencé un peu construire notre projet, je lui envoie un mot, je lui dis, cher Alain... C'était Alain Fuchs, hein, qui était PDG du CNRS. Je dis, voilà, j'ai vu ton appel, il est vraiment, c'est très bien. Bon, tu veux qu'on te donne les résultats dans les 18 mois. Tu vas sans doute donner 10 000 euros pour chacune des recherches. Vraiment, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai un double problème. Premièrement, les résultats, tu les auras dans 12 ans. Et deuxièmement, ça sera pas 10 000 euros. Parce que vu ce qu'on veut faire, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, parce qu'il faut avoir un financement à la hauteur de l'ambition intellectuelle que nous avons. Alors, je lui explique
mais
un petit peu.
Mais il vous a donné son feu vert.
Mais oui, on a appelé 2h30 dans son bureau, il nous a reçu et dit, je prends, le CNRS prend. Alors, on lui dit, comme il y a l'INSERM, Yves Lévy il le connaissait bien, on a vu Yves et Yves Lévy a dit ben on va copiloter, voilà. Et avec ESAM Université, on a foncé. Mmh. On s'est retrouvé avec 31 partenaires.
Voilà. Donc il y a d'abord ce que vous disiez, le programme 1000, le fait d'interroger 1000 personnes. Alors expliquez-nous. Il y a plusieurs cercles. Il y a à la fois ceux qui étaient sur les lieux, qui ont été victimes, qui ont été témoins. Il y a même les proches aussi des disparus, il y a les habitants des quartiers touchés, il y a les habitants de Paris, et puis il y a des habitants d'autres villes. Pourquoi vous avez décidé ces différentes strates ?
Parce que notre questionnement, c'était de s'interroger sur la façon dont un événement traumatique impacte non seulement les personnes qui sont directement exposées, comme vous le dites très bien, c'est-à-dire les rescapés, les parents endeuillés, les témoins, les intervenants de toutes sortes, mais aussi, par strates successives, l'ensemble de la société française. Parce que l'ensemble de la société française a été traumatisée par cet événement. Bon. Et donc, on voulait voir comment ça se passe chez ces gens et comment, du plus proche au plus lointain, on appréhendait cet événement, comment on le mémorisait. Et c'était la clé. Donc, on est allé jusqu'à 3 villes de province, Caen, Metz, Montpellier.
Donc, vous avez interrogé les personnes en question. Pour ceux qui étaient directement sur les lieux des attentats, ça a été, j'imagine, assez terrible. Comment ça s'est passé ? Vous avez fait ça dans un lieu neutre, vous avez enregistré, vous avez filmé ces entretiens, et maintenant, vous les archivez, si j'ai bien compris ?
Mais ça, c'est la clé. C'est-à-dire que on a travaillé beaucoup avec notre ami, mon ami de William Hurst, qui est un Américain. On a travaillé sur le 11 septembre. Lui, il avait monté un projet comme ça sur 10 ans, mais comme psychologue surtout avec des questionnaires écrits. Et puis c'était pas poser la question de retrouver les mêmes, mais en 4 phases. Donc c'est absolument passionnant ce qu'il a découvert. Et c'est en fonction justement de ce qui, pour moi, manquait aussi dans son interrogation que je lui ai dit, bon allez, on va prendre 4 fois en 10 ans, mais on va essayer d'avoir les mêmes. On va le faire en audiovisuel. Parce que je vais vous donner un exemple. J'ai interviewé un gamin, enfin je les appelle les gamins, c'est comme mes fils, quoi. Un jeune qui était au Bataclan, et on discutait comme ça juste avant, comme vous faites, quoi, pour mettre un peu en confiance. Et il me dit, vous savez, j'ai une très bonne mémoire. Je dis, mais c'est pas un problème, vous parlez autant que vous voulez. Et entre la première question, parce qu'on a un protocole très précis, hein, 40 pages quand même, on pose toujours les mêmes questions, on suit un processus, enfin c'est très scientifique. entre la première question et la première relance, même pas la deuxième question. La première relance, on dit « vous m'avez dit ça, mais hein, vous pouvez préciser ». Il s'est passé 1h30. Donc vous voyez la différence. Et en plus, quand on prend image et son ensemble, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur les émotions, que l'intelligence artificielle, dans 3, 4, 5 ans, va pouvoir nous appréhender ça. Et comme on a la chance d'avoir l'INA et le CPAD pour nous aider, pour faire les prises audiovisuelles, ça donne évidemment un matériel d'une qualité exceptionnelle.
Ça donne quelque chose de très lourd aussi, Denis Péchanski, parce que on entendait tout à l'heure dans le journal quand le président du tribunal lit simplement d'une voix neutre ce qui s'est passé, là vous avez les témoins directs, les victimes qui vous racontent. J'imagine que ça a dû être très particulier, même pour ceux qui posaient les questions, enfin ces relances.
Mais bien sûr, parce que on est là à gérer l'entretien. Alors, mais bon, la douleur, elle est d'abord chez les rescapés, et je dirais le plus difficile à gérer de ce point de vue-là, du point de vue émotionnel, c'est les parents endeuillés, bien sûr. Mais ils nous racontent ces histoires-là. Très vite, ils oublient la caméra, bien sûr. Ils sont volontaires. Ils ont choisi de venir. Et ils nous racontent leur histoire. Et nous, on prend ça aussi, si je peux me permettre l'expression, dans la tronche. Et voilà, ça pleure aussi hein, dans les studios, même si on est très professionnel, mais il y a des moments où c'est compliqué. Hein.
Parce qu'effectivement, c'est une séquence incroyable qui s'est déroulée ce jour-là. Avant de poursuivre, vous allez nous expliquer notamment ce qui s'est passé. Vous avez déjà écrit un premier livre à partir de ces témoignages. Je voudrais simplement qu'on s'arrête un instant sur un document qui a été consigné le soir même de la tragédie. C'est un document ce sont des enregistrements du SAMU de Paris, le soir des attentats. C'est un médecin du SAMU, le docteur Poirot, qui les a remis à notre consoeur de France Info, Gaël Joly. Lui, il les utilise maintenant à des fins de formation pour les secouristes.
C'est chez moi, j'ai vu le mec qui a allumé tout le monde dessus. Il a allumé tout le monde, j'ai vu de mes yeux. Ici, à la calache.
Nous vous informons que notre conversation est enregistrée.
Le SAMU de Paris, bonjour.
Oui, bonjour, on vient de prendre des balles à côté du Bataclan. Mon mari est blessé, moi aussi. Je ne sais pas l'adresse, je suis blessée, je ne suis pas bien. Et boulevard Voltaire, à Paris.
On n'est vraiment pas bien, je vais bientôt...
Les secours sont déjà partis, madame.
Oui, okay, merci. Très bien.
Arrêtez, Giro !
Les secours sont là, mais les équipes du SAMU, sous les tirs des terroristes, n'arrivent pas à approcher.
Allô.
Moi, je suis au côté de la rue Amelot, là où ça tire encore. Dans le
bataillon. Putain, mais... Alors...
Ils sont toujours pas rentrés dedans. Moi, je suis à l'écart. Hein. Je suis protégée. Je suis pas...
Non, mais d'accord. Écoute, tu ne bouges pas. Ma chérie. Tu ne bouges pas. T'es prête à te barrer. Tu restes là où tu es. D'accord.
À 23h14, on évoque un premier bilan au Bataclan.
Allô ?
Ouais.
Faut que je fasse le tour un petit peu. T'en es où au Bataclan ?
J'ai rien parce que moi, je suis bloquée sur le boulevard des Filles du Calvaire avec les filles qui me disent qu'ils savent pas si c'est sécurisé. Mais j'ai en même temps l'AR qui est avec moi, qui a des infos par sa coordination et qui me dit qu'ils auraient 80 morts au Bataclan.
Ils auraient combien ?
80 morts au Bataclan avec un mec avec des explosifs. Et...
Non, ben attends, ouais. Ok.
Message urgent à l'intention des ambulanciers. L'ensemble des ambulanciers sont attendus dans la cour. Urgent, merci.
Nicolas Poirot, qui gérait la cellule de crise, quitte son poste pour aller aider les équipes sur le terrain.
On est parti avec la deuxième vague, où là on a été à plusieurs équipes dans les camions. Donc on était un médecin, une infirmière, un sac à dos, et puis on montait dans les camions, et puis on partait prendre en charge les gens.
Allô madame ?
Oui ?
Au niveau du SAMU, on est au courant. Hein. Ils sont au courant, madame.
Parce que là, il est à l'intérieur, lui, il est encore vivant et tout ça, et il entend que tout le monde est en train de se faire tirer dessus, il s'est planqué dans les toilettes, donc il faut l'aider. Hein.
D'accord. Voilà, ils vont faire le nécessaire, je ne peux pas vous en dire plus, madame.
D'accord.
Vous savez, nous, on fait un métier où on voit des choses assez terribles. Donc là, c'était au-delà de toute... Enfin, j'ai jamais vu autant de morts de ma vie au même endroit, c'était abominable. Moi, j'ai pas de souvenir de cris d'affolement, de panique. Les secours, tout le monde a donné le meilleur de soi-même pour faire face à cette espèce de massacre monstrueux qui s'est passé en plein Paris, quoi.
Voilà pour ce document signé Gaël Joly, à qui le docteur Poirot a donc confié ses enregistrements. Denis Péchanski, ce qui est incroyable avec ce document, c'est que là, on a enregistré quelque chose qui s'est passé carrément en direct.
Oui, c'est un document exceptionnel. Gaëlle a recueilli non seulement il a monté son émission, mais comme elle l'a dit très bien, elle n'a pris que des extraits. Il y a 13 heures de bande. Bon, et il y a des choses qu'elle n'a pas évidemment mises dans cette émission parce que c'était trop dur. Et je trouve que il y a une charge émotionnelle dans le dans quelque chose qui devrait être quelque chose de technique. On entend tout à travers les voix des témoins, les voix des personnes,
l'émotion, hein.
Quand elle dit il y aurait 80 morts, bon, il y en avait 90, il y aurait 80 morts, on sent bien que de l'autre côté, il dit
le moment où on l'apprend, évidemment,
c'est un moment exceptionnel. C'est pas possible, elle ne le croit pas. Là, on a des documents qui sont sortis, mais de façon générale, vous savez, il y a derrière le procès, il y a 450 tomes de documents, plus d'un million. Il y a des documents de ce type qui sont des documents aussi audiovisuels et audio, mais il y a eu un travail absolument phénoménal de réaliser par toutes ces équipes, et en particulier par toutes les équipes des juges d'instruction, ce qui fait qu'on arrive à reconstruire ce qui s'est passé très précisément avec, on parle de zone d'ombre, comme dit très bien l'ancien procureur de la République de Paris, c'est vraiment questions encore.
Vous le soulignez, hein, même dans le livre qui a été publié chez Odile Jacob l'année dernière, 13 novembre, des témoignages, un récit à partir des premiers témoignages que vous avez recueillis. Il y a quand même quelques zones d'ombre, quelques petits points sur lesquels effectivement la justice devra faire la lumière, mais pas grand chose. Denis Péchanski, vous avez donc interrogé 1000 personnes, quasiment 1000 personnes, une première fois en 2016, une deuxième fois en 2018. Là, il y a des entretiens aussi qui reprennent ou qui sont en cours en 2021. Est-ce que vous avez déjà constaté des changements dans ce que les gens ont pu vous dire? Est-ce que la mémoire évolue déjà?
La mémoire évolue avec l'histoire. C'est une caractéristique de la mémoire, je dirais que c'est consubstantiel. C'est-à-dire que ça vaut pour l'individu et ça vaut pour la société. On ne retient que ce qui est nécessaire à l'interprétation qu'on se donne de l'événement. Alors évidemment, pour ceux qui sont directement exposés, c'est le cas, mais je vais prendre un seul exemple. Il y a un gars qu'on a interviewé, qui est venu les trois fois. Bon, là, on l'a déjà interviewé pour la phase 3, 2021, et j'ai repris un petit peu les papiers, les notes, etc. Et il s'est beaucoup engagé dans une des deux associations. Et j'ai regardé un petit peu. Le premier document, parce qu'il y a aussi une partie écrite, où on lui demandait le nombre de morts. Il y avait deux points d'interrogation. En phase 2 et phase 3, 130. Plus 1, puisqu'il y a un suicide qui est reconnu postérieurement, qui est intégré, mais... Le chiffre est exact, ça veut dire que dans la mobilisation, parce que la mémoire c'est comme un puzzle, on va chercher les pièces qui nous manquent pour construire un récit individuel et aussi pour construire un récit collectif, eh bien la mémoire individuelle évolue et on est convaincu au bout du processus que finalement c'est ce qu'on avait vécu complètement.
Surtout quand c'est un événement collectif. J'imagine qu'on se laisse influencer aussi par ce qu'on peut entendre dans les médias, ce qu'on va entendre, la vérité du procès, là. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on oublie certaines choses? Pourquoi est-ce qu'il y a une partie des faits qui s'effacent chez certains?
Peut-être parce qu'on n'en a pas trop besoin, peut-être parce qu'il y a une concurrence mémorielle, en quelque sorte, parce que dans la vie, il y a d'autres événements qui viennent... Je pense, par exemple, à l'étude qu'on mène avec le Crédoc, on s'aperçoit, entre 2016 et 2018, que, alors même qu'en 2016, il y avait vraiment une connaissance très largement partagée de ce qui s'était passé, on était 7 mois après l'événement, 2 ans plus tard... Il y a un décrochage avec une variable qui va jouer, c'est la variable sociologique. Et c'est très très intéressant, c'est-à-dire que les catégories populaires sont celles qui ont des souvenirs moins précis, c'est là où, alors c'est pas encore massif, hein, on est à 10-15%, mais où on a des réponses, des refus de répondre, ce sont des gens qui en plus sont engagés dans un contexte de crise sociale profonde, de protestation. Et le fait d'avoir un autre impératif dans l'agenda fait que, sans doute, eh bien, on est moins sensibilisé. Mais aujourd'hui, on va faire nos entretiens. Il y a le procès qui va évidemment peser sur nos entretiens. Mais à l'inverse, le contexte, c'est le Covid.
Et évidemment, ça va jouer. Denis Péchanski, on va revenir évidemment sur tout le travail que vous êtes en train de faire au cours de cette émission. Mais on va s'arrêter, parce que c'est la règle du jeu dans cette émission, sur l'actualité de la semaine, justement, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. Dans le reste de l'actualité, il y a la présidentielle, il y a Jean-Paul Belmondo, et il y a donc évidemment le Covid dont vous parliez à l'instant, avec toujours le ras-le-bol des médecins menacés par les antivax.
Nous avons assisté à une discussion vidéo entre différents complotistes bien connus qui discutent des moyens qu'ils vont choisir pour exécuter les médecins. On en est là aujourd'hui.
Stop aux menaces contre les médecins. Les scientifiques pris pour cible demandent à l'État de réagir. À Marseille, où le patron de la PHM a été traité de collabo, nouveau rassemblement de soutien au professeur Raoult qui a atteint l'âge de la retraite.
Ils pensent autrement et on le sabote. Comme tous les gens qui pensent autrement que le gouvernement voudrait qu'on pense.
Dans les antivax, il y a des gens qui ont la trouille. Ils ne sont pas tous antisémites ou d'extrême ceci ou cela.
Il y en a qui ont tout simplement peur de la piqûre, par exemple.
Et pour cela, les soignants savent y faire.
On les allonge, on les bichonne, ventilateur, verre d'eau, pâte de fruits, tout va bien. Et quand ils se sentent prêts, eh ben, on y va et on fait l'injection.
Situation sous contrôle dans les hôpitaux et allègement sanitaire dans les centres commerciaux.
Pour tous les centres commerciaux de plus de 20 000 m², dans les départements où l'incidence est passée sous les 200 pour 100 000 habitants, nous supprimerons l'obligation de passe sanitaire.
C'est plus qu'un soulagement, c'est une très grande nouvelle, puisque depuis presque trois semaines, on fait environ 50% de chiffre d'affaires en moins.
Dans les écoles, protocole inchangé, à chaque cas de Covid détecté, fermeture de la classe.
Moi, j'étais dégoûtée parce qu'on n'a même pas resté au moins une semaine. À l'école, tu peux demander de l'aide à la maîtresse, alors que là, tu ne peux pas tout le temps demander.
On l'avait compris, mais ça va mieux en le disant, la réforme des retraites attendra des jours meilleurs.
Ce processus ne pourra reprendre que lorsque la pandémie sera sous contrôle et que la reprise économique sera suffisamment solide.
Et que la présidentielle sera passée. Reste à savoir qui gagnera, mais d'abord, qui sera candidat.
On est à un moment où je n'ai pas déclaré ma candidature.
Anne Hidalgo fait durer le plaisir, mais ça ne devrait pas tarder.
C'est donc un entrepreneur, un militant du Made in France, défenseur de la cause des abeilles, qui se présente aujourd'hui devant vous.
Arnaud Montebourg, lui, a franchi le pas.
J'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République.
Votre père se présente aux élections ? Absurde, non ?
Pourquoi ?
Il ne pensera jamais.
Pourquoi ?
Écoutez, mon vieux, vous n'allez pas répondre pourquoi à tout ce que je vous dis.
Pourquoi pas ?
Hommage national aux Invalides pour Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés.
Belmondo, c'est un peu nous, en mieux.
Babel, c'est comme le chocolat. Quand on va pas bien, on regarde Babel. Quand on va bien, on regarde Babel. Et tout de suite, on a le sourire, on a le bonheur.
Oui, il aurait dû être remboursé par la Sécurité sociale. Hein.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie de l'historien Denis Péchanski, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui co-dirige le programme 13 novembre. Denis Péchanski, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, cette crise sanitaire qui est arrivée, elle a pas tendance à écraser un peu le reste?
Bien sûr, on a fait un sondage en janvier dernier, on va sortir les résultats parce qu'on veut voir un peu l'évolution. On a posé une question qui est posée régulièrement. Quel est l'événement le plus important depuis 1900? Bon. En premier, comme toujours, la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait cohérent. La première, est alors même qu'il y avait le centenaire, est rejetée très loin. Et le terrorisme, qui reste évidemment d'actualité, mais tout à fait logiquement, on me poserait la question, très peu de personnes le mettent comme l'élément qu'on va retenir depuis 1900. Bon. Mais en deuxième place, derrière la Deuxième Guerre mondiale, il y a le Covid. C'est un événement monde qui, on le sait très bien, qui a eu des conséquences, mais d'une importance gigantesque. Donc, c'est vrai que quand on fera le lien entre les deux, déjà, quand on entend les menaces qui sont portées contre les médecins qui vaccinent, enfin, c'est un scandale total. Comment ose-t-on manifester aujourd'hui alors que on a en plus, nous, le cas des Antilles, qui est un drame absolu.
Comment ose-t-on mettre une étoile jaune quand on défile? Ça, j'imagine que
Ça, c'était totalement insupportable.
Ça doit interpeller l'historien que
vous
êtes.
Mais bien sûr, ça, c'est totalement insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est non seulement, évidemment, absurde, mais en plus, c'est une banalisation de la politique antisémite de Vichy et de la politique allemande. C'est une banalisation de la Shoah. Donc on a, enfin, c'est à la fois absurde et plus que douteux. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et on sait très bien que si on fait sauter ce verrou-là, si on commence à contester l'engagement, par exemple, l'appel improbable de De Gaulle à la résistance le 18 juin 40, si on commence à dire bah, finalement de demander un pass sanitaire dans une démocratie comme la nôtre, c'est l'équivalent d'une étoile jaune, on les marque. Mais on devient fou là.
Sur les théories complotistes de Denis Péchanski, parce que là on n'est même pas dans la réécriture de l'histoire, on est dans la réécriture du présent. Hum? Comment on fait là?
Ben, c'est un combat qu'il faut mener et qui va être extrêmement compliqué. J'ai l'impression que là, sur la question de la vaccination, on a gagné, largement. Y compris quand on voit la chute de participation dans les manifestations, semaine après semaine, et quand on voit l'augmentation massive du nombre de vaccinés. Alors c'est vrai que ces derniers temps c'est plus compliqué, mais c'est plus compliqué parce qu'on a dépassé les 85 ou 86% de vaccinés parmi la population adulte, ce qui est enfin, plus de 18 ans, ce qui est exceptionnel, sachant qu'avant l'appel, avant le moment où le président Macron a tapé du poing sur la table, le 12 juillet, on était quand même en queue de liste. Et là, on est parmi les premiers. Et le drame actuellement, voilà, j'en parlais avec justement, juste avant de venir, avec une amie américaine, franco-américaine, mais aux États-Unis, là, comme il ne l'impose pas, c'est voilà. Et puis, on dit, il y a qu'en France qu'on fait le pass sanitaire, mais en Suisse, là, alors là, ils font encore mieux. Ils viennent d'annoncer que dans 3 jours, il y aurait un pass sanitaire. On a pris quand même un peu plus de précautions, nous, hein.
Plus léger, allez, on va dire, le décès de Jean-Paul Belmondo dans l'actualité de la semaine, Denis Péchanski. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'hommage national aux Invalides. Qu'en dit l'historien que vous êtes? C'était sa place, les Invalides?
Moi, j'aurais pas mis là, mais j'aime bien le bonhomme, quoi. D'accord, comme tout le monde. Mais c'est pas parce que ça nous donne de la bonne humeur qu'on doit faire un hommage aux Invalides. Mais ça, c'est un avis personnel. Manifestement, question d'âge, sans doute aussi, le président de la République a décidé de faire entrer les hommes de culture et les hommes de cinéma aux Invalides, au moins pour les hommages nationaux, bien entendu. Je pense que voilà, je pense que c'est peut-être un peu trop. C'est tout, mais je vais pas en faire une maladie. Hein.
Et Joséphine Becker au Panthéon?
Ah là, c'est autre chose. Là, je soutiens totalement parce que c'est une figure, c'est une figure de non seulement évidemment la chanteuse et danseuse qu'on connaît, mais elle s'est engagée dans la résistance tout de suite. C'était magnifique et ensuite elle s'est battue pour les droits civiques, une franco-américaine. Là, je pense qu'effectivement, elle mérite la reconnaissance de la France.
Il y a d'autres gens qui mériteraient d'y aller au Panthéon ?
Oui, il y en a d'autres. J'en avais parlé avec le président Hollande à un moment donné, mais enfin, trop tard, j'avais essayé de faire passer un message. Mais je dois dire que c'était superbe l'entrée de 4 résistants, 2 résistants, 2 résistantes au Panthéon. On a oublié une des composantes, même si je ne suis plus communiste depuis longtemps, mais oublier la résistance communiste est quand même problématique. Oublier Manouchian, qui en plus était étranger, est quand même très problématique.
Vous me faites ma transition parce qu'on va parler politique dans un instant quand on va parler de votre parcours, Denis Péchanski, de votre histoire. Mais d'abord, un petit cadeau, un extrait du dernier disque de Bernard Lavilliers, Le cœur du monde, il va bientôt sortir, c'est grâce à Djoubaka.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort, c'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Cœur du monde, extrait du prochain album de Bernard Lavillier qui sortira le 12 novembre.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de l'historien Denis Péchanski, chez qui l'histoire familiale rejoint l'histoire tout court. On peut le dire, Denis Péchanski?
Oui, bah oui, c'est pas faux.
Voilà. Vous avez 66 ans, je peux me permettre de le dire. Vos parents étaient originaires d'Europe de l'Est. Juifs d'Europe de l'Est, résistants, communistes, déportés tous les deux, revenus tous les deux. On parle de mémoire depuis le début de cette émission, alors une petite question, est-ce qu'ils parlaient avec vous de ce passé quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, vous et vos frères?
Oui, ils en parlaient, mais alors ils parlaient de la Palestine, puisqu'ils arrivent en Palestine, ils parlaient de la guerre d'Espagne pour mon père, il parlait de la résistance, puisque mon père était dans les brigades internationales, il parlait de la résistance, tous les deux. Bon, enfin, c'est vrai que quand il racontait, quand mon père racontait que, donc interrogé par la Gestapo, tous les deux, en fait, c'était ma mère que j'étais en. La Gestapo était en train de la torturer. C'est lui qui est tombé dans les pommes. Donc ça reste un petit peu dans, oui, chez nous, ça reste un petit peu. Et puis, bon, bah, ils sont revenus. Ma mère était chimiste, ce qui a été bien utile pendant la guerre, pour faire des petites choses, fabriquer des bombes. Mais ça a sauvé aussi sa tête parce qu'il y a eu un grand procès là, dans le groupe Robert Beck auquel dont ils étaient membres, et le président du tribunal, ça a sans doute sauvé leur tête, sa tête à elle, à cause d'une petite erreur du procureur qui allemand qui dit qui montrait les feuilles à la main qui pour dire regardez ces feuilles de code, ça prouve que elle est un agent soviétique une espionne etc. Donc lève la main, elle dit bah, c'est ma thèse de chimie. Bon voilà, c'était sa thèse de chimie. Alors sans doute ça lui a sauvé la vie, enfin j'espère, ça aurait dû la continuer puisqu'elle s'est amusée à faire du sabotage dans les usines, dans les usines allemandes là quand elle était internée dans les prisons, et puis elle atterrit à Ravensbrück et mon père à Sachsenhausen.
C'est pas forcément pour ça que vous avez fait l'histoire d'Annie Péchanski.
Oh, je pense que ça joue, mais en même temps, si vous voulez, j'ai deux frères scientifiques. Hein, y a Robbie qui est un, bon, ils sont plus âgés que moi, mais Robbie est un physicien. Fait sa carrière au CEA, physicien du nucléaire. Marc, lui, c'est un ponte de la
biologie
des cellules souches, c'est un biologiste, c'est à l'INSERM, donc on s'est partagé un petit peu, hein. CEA, INSERM, CNRS. Là.
Tous les trois chercheurs, en tout cas.
On peut pas dire, vous voyez, bien sûr que si on n'a pas cette histoire-là, on comprend pas ce que j'ai fait. Mais en même temps, il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de fatalité à ce que je fasse ça.
Toujours est-il que vous avez fait des études d'histoire, la recherche, et à cette occasion, Denis Péchanski, en faisant vos recherches pour une thèse d'État sur les camps d'internement en France, je crois, vous êtes tombé sur des archives concernant vos parents. Vous leur avez même appris une partie de leur histoire.
Oui, parce que...
Sur les circonstances de leur arrestation, c'est ça?
Oui, c'était après. Mais malheureusement, mon père n'était plus là. J'allais soutenir ma thèse sur les camps d'internement en France. À l'époque, on faisait des thèses d'État, donc c'était un peu lourd, 1200 pages. Mais je suis allé voir le préfecture de police, le directeur, Claude Charlot. Je lui dis, écoute, t'as du neuf. Et oui, écoute, on a oui les archives des brigades spéciales, on classe là. Bon. Et puis on par nom. Je dis bon, si jamais il y a Manouchian, Epstein ou autres, les dirigeants de la résistance étrangère en France, à Paris, les FTP-MOI, ça m'intéresserait beaucoup, parce que je travaille un peu dessus quand même. Oh, t'en fais pas, tu demandes une dérogation, tu l'auras au bout de quelques semaines. Puis donc, il me montre le jeune étudiant qui était en train de classer tout ça, et je dis, mais tout d'un coup, dans ma tête, brigade spéciale, mais attends, il y a mes parents là-dedans. Tu peux rechercher Markowska, Kronfeld, Péchanski, enfin tous les noms, Beck, tous les noms qui tournaient autour, et non des parents, et puis je vois tout le dossier, effectivement. Alors dans un premier temps, je préviens ma mère de ce qu'on avait, y compris les photos d'identité judiciaire, ce qui est quand même toujours très émouvant. Dans un deuxième temps, je lui apprends les conditions dans lesquelles ils se sont fait arrêter, en particulier la responsabilité de celle qui avait l'adresse de la planque, et qui donnait la planque et qui mettait son nom, puisque elle avait un nom beaucoup plus présentable que celui de mes parents. Et là, il y a un silence pendant 10 ou 15 secondes. Elle avait alors, on était en 2000, donc elle avait 90 ans. Et au bout de 10-15 secondes, elle me dit, mais tu crois qu'elle est encore vivante? Alors là, je dis, écoute maman, j'ai éclaté de rire, je lui dis, bon, je veux bien la vendetta avec les trois fils qui vont liquider, là. Mais honnêtement, d'abord, ça fait 42, hein, bon. Puis ensuite, j'ai vu la photo, elle a 10 ou 15 ans de plus que toi, je pense que l'affaire est réglée.
Voilà, donc vous avez fait de l'histoire en famille, vous êtes aussi tombé dans la marmite communiste dès l'enfance, Denis Péchanski.
Comment voulez-vous faire ?
Voilà, hein, jeunesse communiste à 13 ans, vous êtes resté au PC jusqu'en 80, vous en avez été exclu, ensuite vous avez rejoint le PS, vous avez même été élu local.
Attendez, j'ai été exclu comme agent infiltré par la bourgeoisie quand même.
C'est du beau. Et vous avez été donc au Parti Socialiste, militant de gauche, et aujourd'hui vous voilà à La République En Marche.
Et militant de gauche.
Toujours de gauche C'est possible ça?
Ben oui, il y en a pas mal d'ailleurs. Puis je dois dire qu'actuellement, avec la politique très keynésienne qui est portée par le président et par un ministre de l'économie qui est très libéral, c'est vrai que c'est on est d'autant plus à l'aise, mais cette politique de relance en situation de crise qui qui fait ses preuves, quoi. Qui fait ses preuves, de même que fait ses preuves la politique sur le front sanitaire. La situation actuelle est bien meilleure et heureusement qu'il a tapé du poing sur la table. Donc ça lui donne des atouts, oui.
Alors, Denis Péchanski, on va en revenir pour terminer cette émission à ces travaux en cours, ce programme 13 novembre. On a détaillé l'étude 1000 tout à l'heure. Je crois que vous souhaitez profiter de cette émission pour lancer un appel parce que vous cherchez de nouveaux témoins.
Oui, c'est adorable de votre part et c'est vrai que...
Oh ben ça intéresse nos auditeurs aussi, vous
oui,
savez.
Oui, si, parce que en fait, c'est un truc tout bête. Les gens reviennent. Et je peux vous dire qu'en études épidémiologiques, comme on dit, qu'ils reviennent au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, c'est extraordinaire. Quoi. Ça prouve que vraiment, ils ont compris l'importance du projet qu'on est en train de porter, transdisciplinaire, scientifique, et que on peut peut-être améliorer des choses dans la connaissance de l'événement et puis aussi dans la connaissance des pathologies. Mais on se dit, tiens, on les a interrogés 2 fois. Ils connaissent un petit peu comment ça fonctionne. Ils n'ont pas retenu toutes les questions, bien entendu, mais... Ils sont pas surpris. Bon. Et là, on voudrait en avoir 300 nouveaux qui vont arriver, qui ne connaissent pas du tout le protocole et qui vont se retrouver dans des studios qu'ils ne connaissent pas non plus. Et on va voir s'il y a une différence. Alors d'abord, ça va nous apporter des infos supplémentaires. Et en plus, on va voir s'il y a une différence entre le discours qu'ils vont nous tenir et le discours de gens qui ont vécu à peu près la même chose.
Et vous cherchez des gens, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, c'est-à-dire,
oui,
c'est-à-dire ceux qui étaient éventuellement sur place, qui ont été témoins, à la fois des gens du quartier et à la fois des habitants de Paris, c'est ça,
oui,
des autres quartiers,
et de la région parisienne, qui étaient tout à fait extérieurs. Alors pour les 3 villes de province, il y en a une où c'est déjà fait, et puis les 2 autres, ça va s'arranger entre Montpellier et Nancy, les exigences sont moins lourdes, mais c'est vrai que sur la région parisienne, on aimerait bien avoir...
Y compris des gens qui étaient au Stade de France, qu'on
bien
a tendance
sûr,
à un peu oublier par moment.
Je peux vous dire qu'on a découvert à cette occasion, et je l'ai fait connaître par un journal allemand qui est sorti, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui a sorti un papier, il y a hier, je crois, ou avant-hier dessus, le sort des gendarmes, totalement inconnus. Des gendarmes montés qui étaient à la sortie du Stade de France et qui ont été à 20 mètres de la première explosion. Le blast, Diaz, le seul mort du Stade de France, outre les terroristes. Bon.
Donc on peut vous appeler, on peut vous écrire si on souhaite participer à cette étude qui se poursuit, qui est en cours, qui va reprendre. On donne le numéro, ce sera fait, 06 18 07 13 77, c'est bien ça, Denis Péchanski ?
Exact.
Je redonne 06 18 07 13 77. De toute façon, vous trouverez le numéro sur la page de l'émission. Il est 18h59, Denis Péchanski. On mettra aussi une adresse mail. Je vous remercie 1000 fois d'être venu ce soir. 300 personnes, donc, que vous cherchez pour la suite de votre étude. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.